Il est 8h49.
France Inter, le 7-9.
Et c'est la revue de presse, Claude Askolovitch. On parle des fous ce matin.
Et on en parle, Nicolas, parce qu'une folie rôde et devient un déjà-vu. Parce qu'après Villejuif, c'est à Metz, le Républicain Lorrain et l'Est Républicain font leur une, qu'un homme radicalisé, fiché S, s'est avancé vers des policiers en disant « Allah Akbar, il avait à la main une lame de 20 cm et les policiers lui ont tiré dessus ». Je parle de folie parce que, comme souvent, je lis que cet homme était suivi pour des problèmes psychiatriques, mais aussi parce que dans les journaux lorrains, on me dit que cet homme était aimé et apprécié dans son quartier de Borny. Oh, il était gentil. Allons, il était peut-être juste mal, puisqu'il était sorti avec une lame, mais enfin, fallait-il lui tirer dessus? Aujourd'hui, dit un de ses amis, dans un quartier sensible, il suffit que quelqu'un dise Allah Akbar pour qu'il soit pris pour un terroriste. Et cette banalisation est peut-être la folie du moment. D'un côté, un quartier qui ne voit pas le mal, de l'autre, une lame et des journaux alertés. Le Figaro salue les policiers qui luttent contre les fous d'Allah. Le Point, titre cette semaine sur les territoires conquis de l'islamisme. Titre du livre d'un chercheur, Bruno Rougier, qui dit avoir rencontré dans la société française le même phénomène qu'il avait observé jadis dans les camps palestiniens au Liban. Le triomphe d'une norme religieuse rigoriste qui trace le chemin vers le terrorisme. Et les questions baroques que peuvent poser des chauffeurs de VTC à de sages salafistes. Les frères qui font le métier de chauffeur de taxi ont-ils le droit de charger des femmes mal vêtues? Ces questions seraient un chemin vers l'horreur. Le Monde interroge un autre chercheur, Hugo Micheron, dont le livre s'appelle « Le djihadisme français, quartier Syrie, prison ». Il a, lui, minutieusement étudié les parcours de la mort et en dresse une géographie depuis ces quartiers où des militants avaient pollinisé la radicalisation jusqu'à créer des enclaves. Parfois, cela s'est joué à l'échelle d'un immeuble. Micheron en appelle à comprendre le défi sociétal du djihadisme sans lequel le sécuritaire sera nu. Mediapart apporte un autre éclairage sur les hésitations de nos raisons. L'article se résume ainsi. Pourquoi le parquet national antiterroriste se saisit-il de l'attaque au couteau de Villejuif, même n'a pas voulu prendre l'attaque de la mosquée de Bayonne en octobre dernier? Mais le résumé n'y suffit pas, il faut lire. Michael Harpon, qui avait tué 4 personnes à la préfecture de police de Paris, est encore considéré comme l'auteur d'un attentat, alors que la brigade criminelle considère qu'il a agi en proie à un délire mystique et suicidaire. Nous doutons des folies.
En Angleterre, un homme politique espère la folie.
Et lui s'appelle Dominic Cummings, inspirateur de Boris Johnson, et il appelle les administrations à embaucher des « weirdos », traduisez des loufoques, pour sortir enfin l'État de son conformisme et l'adapter au temps moderne. C'est raconté avec un enthousiasme sceptique par Éric Le Boucher, chroniqueur à l'Opinion. Mais la folie est déjà là. Libération publie la photo saturée d'orange et de gris qui dit tout du drame australien. On voit sur une plage que la fumée enserre des familles immobiles, des réfugiés, qui escaladent parfois des dunes sans raison apparente ou regardent le balai des hélicoptères qui doivent les sauver. Ils semblent fous, ou bien notre monde l'est. Dans le monde des gens rationnels, vous lirez ceci. Aux États-Unis, c'est dans les Échos. D'honnêtes citoyens doivent faire appel à la charité publique pour payer leurs factures d'hôpital. La charité ici s'appelle GoFundMe, une plateforme de financement participatif où Homo sapiens americanus, espèce adaptée, doit poster la photo de son crâne brisé ou les mots de son espérance pour attirer la sympathie. Il n'a pas le choix. Il en a coûté 88 000 dollars aux époux Connally, instituteur californien, pour que leur fils Noah, né avec un ventricule gauche défectueux, soit simplement examiné par un hôpital de Boston que ne couvrait pas l'assurance santé de la famille. Au Chili, je lis dans le Figaro, une région est complètement asséchée parce que l'eau a été vendue aux planteurs d'avocats. Dans la vallée de la Liga, où jadis on se baignait au fleuve, les abeilles meurent, on croise sur les chemins des vaches desséchées et les hommes doivent se laver plusieurs fois dans la même eau sale. Depuis 1980, au Chili, l'eau est un bien comme les autres. Idée dorénavant constitutionnelle inspirée par les économistes savants de l'école de Chicago, qui étaient les adeptes du profit et les inspirateurs de la dictature de Pinochet. Derrière le fascisme, il y avait cela. Et voyez-vous, derrière le nazisme, je le lis dans Libération, il y avait notre modernité. C'est la troublante découverte d'un historien, Johann Chapoutot. Le nazisme assassin et génocidaire était aussi un régime participatif qui organisait l'adhésion du peuple par des loisirs de masse et par la reconnaissance au travail de l'initiative individuelle, la valorisation de l'autonomie, la délégation de responsabilité. Nos managements souriants s'en seraient inspirés. Il n'y avait que 8000 fonctionnaires de la police d'État dans l'Allemagne hitlérienne pour 80 millions d'habitants. Le livre de Chapoutot s'appelle « Libre d'obéir, on tremble ». En Alsace, je lis dans les DNA, se tient la rétrospective d'une artiste allemande qui s'appelait Käthe Kollwitz et qui, elle, ne consentit pas. Son fils était mort dans la Grande Guerre, elle fut pacifiste, elle voulut sauver les hommes et ne céda pas au nazisme. Elle mourut en 45, libre de ne pas avoir obéi.
Et les étranges distractions de médecins, Claude, pour finir.
11 000 médecins, nous dit Lop sur son site, rassemblés dans un groupe Facebook où ils se remontent le moral, car le métier est dur, mais se racontent aussi les bizarreries, les laideurs de leurs patients, dont ils postent aussi les photos assorti de commentaires choisis. Quand les seins tombent comme ça, je refuse généralement de les voir en consultation. Si elle mesure 1m50, c'est déjà une contraception à elle toute seule, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a des pervers partout. Ces toubibs ne sont pas fous, ils sont juste laids. Mais tout le monde ici-bas n'est pas méchant. Certains rêvent. En Champagne, me dit l'Union, une femme, Dominique Charest, se bat pour qu'on enterre enfin le crâne d'une de ses ancêtres. Jeanne de Lausanne, dite la Grande Jeannette, torturée et exécutée pour meurtre en 1786 et dont le crâne repose au musée du Vengeur. Quel nom ! Je lis dans Sud-Ouest que les huîtres sont contaminées par le virus de la gastro-entérite et aussi qu'en Dordogne, le silure inquiète, ce poisson à moustache qui dévore tout et trop, il faudra que nous-mêmes le mangions. Enfin, je lis dans le Dauphiné qu'en Haute-Savoie, depuis près de 40 ans, des passionnés rassemblent un trésor, des chansons et des chansons en patois de l'albanais pour que cette langue ne nous quitte pas. On les entend qu'en cassette, mais aussi sur le site du journal.
Voici. Des déchets du Dieu, mon corti, du dépiant d'âme au gorge.
Merci Claude Askolovitch pour la programmation musicale de la revue de presse.